Salut tout le monde, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon preview de l'UFC Coronavirus 1 Lee contre Oliveira. Ça a lieu heureusement ce samedi soir devant aucun partisan parce que là, comme on le sait présentement, ben on a pesé sur le bouton panique, là. C'est le délire complet un peu partout, toute la vie au complet est annulée. Puis c'est pour cette raison, moi j'ai pris des précautions là aujourd'hui parce que tu sais, on sait pas vraiment ce qui se passe avec ça. Là. Puis tu sais, si on écoute nos très fiables médias, ben ils nous disent qu'il faut délirer avec ça. Donc tu sais, je m'arrange de me protéger le plus possible pour essayer de ne pas vous transmettre le coronavirus à travers de votre écran de sel. Parce que ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Là. Il y a même du monde qui disent que c'est tout un hoax, pis c'est le 5G là, qui nous tue. Fait que peut-être que c'est votre 5G hein, qui vous tue. Fait que moi, je vais essayer de pas vous tuer à travers vos selles comme ça. Si vous pognez le coronavirus, vous allez pouvoir vous dire une affaire. C'est pas de la faute à Faber. Fait que au moins, avant de crever du coronavirus, vous allez pouvoir continuer à liker ma page. Donc, tout ça pour dire que je suis là pour mes analyses et prédictions complètes de cet événement-là qui va avoir lieu sans aucun partisan. Mais au moins, ça va avoir lieu. C'est ça qui est le fun, c'est que pendant qu'on va être enfermé chez nous à se demander quand on va inévitablement mourir de la grippe, ben, Chris, on va pouvoir écouter un peu de UFC, puis ça va, t'sais, alléger nos peines et nos souffrances. Donc, le combat principal de la soirée, Charles Oliveira affronte Kevin Lee. Et puis, Krim, on dirait que je le dis depuis le premier jour, que j'ai comme l'impression que c'est vraiment pas un bon match-up pour Kevin Lee, surtout avec ce qu'on a vu récemment de Charles Oliveira, qui est juste rendu vraiment un bon striker et un combattant qui très 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 agressif, là. Il a toujours été dans son style autant debout qu'au sol. Là. C'est pas pour rien qu'il y a le submission record dans l'UFC, c'est parce que, tu sais, c'est pas Damien Maia de qui on va parler dans pas long. C'est absolument l'inverse. C'est le gars qui va pull guard pour essayer de lancer des armbars et des triangles sans arrêt jusqu'à temps qu'il en pogne inévitablement un. Donc, son style se transmet à, comme le coronavirus d'ailleurs, là, se transmet à ce qu'il fait debout. Et puis ça donne un combattant excessivement agressif qui rend du bon debout. Là. C'est ça la différence, c'est que maintenant Charles Oliveira est un très très bon striker. Puis il est reckless. Là. Il est reckless, il lance n'importe quoi avec 100%. Et puis il veut te faire mal. Puis souvent ce que ça fait, c'est que ça le rend très dangereux. Parce que comme, tu sais, qu'est-ce qui va arriver dans le pire des cas si tu veux pas dealer avec son striking très agressif? Ben c'est que tu vas shooter puis tu vas te retrouver ben au sol ou tu ne veux jamais te retrouver sous aucun prétexte avec Charles Oliveira. Puis tu sais, Kevin Lee l'a montré à son dernier combat, il est très bon, il est élite dans la division, c'est un excellent combattant. Moi je vais toujours un peu m'inquiéter de son cardio sur 5 rounds, mais tu sais, le fait d'être au Tristan travailler avec Firas Zabi, c'est sûr que ça amène probablement, ça doit être un des aspects de sa game qui doit travailler le plus, bien que je sais pas si tu peux comme... C'était quelqu'un qui manque généralement de cardio. Je sais pas si ça se gagne. Tu sais, il y a du monde qui sont nés avec un cardio incroyable, genre Tony Ferguson. C'est sûr qu'il l'entraîne, mais Tony Ferguson a quand même toujours dû avoir du bon cardio dans la vie, là, tu sais. Mais on va pas parler de Tony Ferguson parce que là, je vais me mettre à capoter parce que son combat va peut-être être annulé à cause du coronavirus. Mais bref, tu sais, tout ça pour dire que le cardio de Lee est douteux. Et puis, tu sais, il n'y a rien de plus Kevin Lee que de gagner un combat serré contre Charles Oliveira jusqu'au moment où tu shoots pour un takedown puis tu te fais pogner un triangle. Fait que, basically, ma prédiction, c'est Charles Oliveira ici par soumission au... Je veux pas trop travailler ça. Round 3. Soumission au round 3. Et puis, ben... C'est ça que je pense qui est ma prédiction. Basically. Ça nous mène au co-main event de la soirée qui... Faut se le dire, là, la carte de samedi est absolument épique, selon moi, probablement meilleure que l'UFC 248, même s'il y avait deux gros title fights. Tu regardes la main card de cet événement-là, puis je pense que tous les combats qui sont là-dessus sont meilleurs que les trois non-title fights de la main card de l'UFC 248. Bref, tout ça pour dire que c'est un dream fight. Mon seul regret, c'est que ça ne soit pas le main event. C'est chez les 170 livres. C'est Damien Maia face à Gilbert Burns, Gilbert en personne. Basically, probablement les deux meilleurs grapplers dans l'UFC, là, présentement. Damien Maia, c'est sa réputation depuis des années, mais Gilbert Burns, tu sais, en termes d'accomplissement en jiu-jitsu brésilien, est peut-être plus accompli même qu'un Damien Maia. Ce gars-là, c'est un champion du monde, c'est un gars qui avait du succès au plus haut niveau du jiu mondial avant de faire la transition en MMA, puis tu sais. C'est en train de devenir un monstre, là, lui aussi. Là. Comme Charles Oliveira, quelqu'un qui est absolument incroyable debout, qui est agressif, qui est fort, qui est moins balls to the walls que Charles Oliveira, par exemple. Gilbert Burns est peut-être un peu comme Kevin Lee, pas le gars qui a le meilleur cardio, mais semble en être conscient, puis manager son énergie en conséquence. Puis ça fait qu'il nous donne des gros bursts de choses incroyables, mais des moments où il fait un peu moins grand-chose, tu sais, dans ses combats. Ce qui me fait peur, c'est que Burns a tellement dit toute la semaine, ah ouais, je m'en viens, dire grapple avec Damien Maia, que j'ai l'impression qu'il pourrait juste pull un Tyron Woodley là, de son chapeau, puis défendre tous ses takedowns, et puis le tapocher debout, puis ça serait probablement une victoire facile, mais j'ai Gilbert Burns pour cette raison-là. Pour être honnête avec vous, je pense que même s'il grapple, Maia est vraiment le plus control grappler des deux, fait que c'est sûr qu'il pourrait faire mal pareil, t'sais, Burns dans certaines positions, alors que Burns est t'sais, un excellent grappler, comme j'ai dit, mais plus un gars d'explosion qui va essayer t'sais, de lockdown ses positions avec sa force. Puis je le vois t'sais, moyen se retrouver en dessous de Damien Maia et avoir autant de succès que ça, bien que t'sais, il est excellent. Je pense que sa chance, mais je pense que l'athlétisme, le fait qu'il est beaucoup plus jeune et explosif que lui, puis le fait qu'il va être un meilleur striker, va donner l'avantage à Gilbert Burns dans ce combat-là, par décision. Et puis, ça nous va dans l'autre combat qui est... Oh, les débuts lightweight de Renato Moicano. Il affronte Damir Radzovic. Puis c'est juste un match-up qui est très très bien sélectionné, ça, là, pour être franc avec vous. C'est comme très bien sélectionné. C'est un match-up qu'on a un combattant qui va être agressif, qui va venir vers Moicano, qui va être capable de travailler son counter-striking, qui va être capable de lander ses combinaisons en contre. Moicano, c'est un excellent striker. Oui, il a perdu ses deux derniers combats à 145, mais il faut se rappeler que c'est genre contre José Aldo. Puis c'est qui l'autre? Marron, ça, je me rappelle plus, juste parce que je vous le dis, puis j'ai checké comme pas longtemps avant, là, mais deux combattants super, Korean Zombie, comment oublier, genre, tu sais, deux combattants super élites dans la division, puis là, Damir Radzovic, c'est un vrai 155 livres, mais je pense que c'est bien tout ce qu'il peut offrir à Moicano en termes de position, parce que je pense que tout ce que Radzovic tente de faire dans un combat, Renato Moicano tente aussi de le faire, et il le fait sans aucun doute mieux que lui, donc j'ai Renato par décision ici, et ça nous mène à un joyau absolu, un combat qu'on va probablement se rappeler pendant des décennies à venir, chez les 205 livres, Johnny Walker face à Nikita Krylov. Les deux weirdos absolus de l'UFC se battent dans la même division, puis ils mettent un contre l'autre, puis écoute, ça va juste être dumb, ce combat-là. Mon pic, je vous le dis tout de suite, c'est Nikita Krylov par soumission pour la simple et unique raison que Nikita Krylov est tellement tough que je le vois mal juste se faire knocker par Johnny Walker. T'sais, oui, Johnny Walker a knocké du monde rapidement, mais c'est pas comme si on avait jamais vu Misha Cirkunov se faire knocker en quelques secondes. Là. Fait que, je peux pas te dire qu'il a affronté les gars qui, t'sais, même un gars comme Corey Anderson, qui est pas réputé pour avoir le meilleur chin, a réussi à déjouer Johnny Walker. Puis Johnny Walker, faut se dire, c'est un bon striker. S'il allait moins balls to the walls, pourrait gagner des combats plus point fighting, stratégique, Muay Thai, debout. Mais le gars a aucun sol. Là. C'est violent comment il a aucun sol. Puis oui, je sais que c'est probablement ça qu'il travaille beaucoup. N'empêche que ça sera pas au niveau d'un Nikita Krylov, qui est généralement pas le meilleur des grapplers, mais dans cette circonstance-là, probablement, sans aucun doute, le meilleur des deux grapplers. Donc, j'ai Nikita Krylov par soumission au premier round, dans ce qui va être probablement un des 5 minutes les plus ridicules qu'on va voir là, de l'année en MMA. J'attends beaucoup ce combat-là, et puis j'espère juste que ça va deliver, là, pour vrai, c'est mon seul souhait. Mais ma prédiction, c'est Krylov soumission round 2. Ensuite, on est où? Francisco Trinaldo affronte John McDessie. Pis c'est un drôle de combat, pour être franc avec vous. J'ai juste l'impression que, tu sais, comme le bottom line ici, c'est que John McDessie, il est bon. T'sais, s'il était juste dans des combats de striking pur avec des gars, il pouvait pas se faire, tu sais, coller contre la cage, se faire ruffer, se faire, tu sais, grinder en général. Je pense qu'il y aurait eu, pis pas qu'il n'y a pas eu de succès, là, c'est un bon combattant, mais il y aurait eu plus de succès. Et puis, s'il y avait un grinder, t'sais, quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant, lander des mains lourdes, qui aura pas peur de rendre ça dirty, d'amener ça contre la cage, ou même de shooter des takedowns puis essayer d'out-wrestle un McDessie, c'est bien Francisco Trinaldo. Puis Francisco Trinaldo, un peu comme Yoel Romero, malgré son âge très avancé, a réussi à continuellement démontrer qu'il était capable de faire ça contre un niveau très élevé de compétition, qui est généralement le niveau de compétition où John McDessie perd ses combats. Il y a, John McDessie, c'est un combattant qui a un ceiling assez clair là, de comme, mettons, top 30, 35 au monde à 155 livres. Puis tout le monde en haut de ça va basically le battre. Puis tout le monde qui est clairement en bas de ça va se perdre contre lui. Puis j'ai comme l'impression que Trinaldo nous a déjà prouvé être en haut de ça. C'est pourquoi je l'ai par décision ici. Et ça nous mène au prelim. Ça demande absolument au prelim. Avec un des combats les plus importants sur la carte. Naturellement, c'est sur les prelims parce que c'est des flyweight, mais... C'est selon moi le combat qui aurait dû déterminer le prochain number one contender à 125 livres. Bien que là, je sais pas pourquoi ils ont l'air comme décidé à faire Figueiredo contre Benavidez 2. Mais tu sais, Brandon Moreno, Juicier Formiga, le gagnant de ce combat-là et le next in line pour un titre. Surtout si comme Figueiredo et Formiga sortent gagnants. En fait, il y a deux paires. Si Figueiredo et Formiga sortent gagnants, c'est un combat qu'on veut voir parce que Figueiredo serait champion et sa seule défaite en carrière, c'est contre Juicier Formiga. Donc, ça serait un combat très intéressant. Et puis, si Moreno en sort gagnant et Benavidez sort gagnant avec le titre, ben là, ça serait un combat qu'on pourrait voir qui serait frais et qui serait probablement très intéressant aussi. Ceci étant dit, beaucoup d'améliorations de la part de Brandon Moreno depuis qu'il est revenu dans l'UFC. Pourtant, je pense qu'il a juste disputé comme un combat en dehors de l'UFC, là, mais... c'est beaucoup amélioré. Là. Son stand-up est de plus en plus... Il s'en va quelque part avec ça. Là. Il est pas juste là à échanger des coups comme s'il était Alex Caceres. Il a plus d'intention. Ça a une direction. T'sais. C'est quelqu'un qui est capable d'arriver avec un game plan de striking puis l'établir puis le respecter pendant le combat en route vers une victoire. Il s'est montré ça notamment contre Kai Kara France qui est une belle victoire assez impressionnante. Et puis... Je pense juste pas que ça va être assez pour Formiga qui perd littéralement juste contre comme Benavidez, Seudo, Demetrius Johnson, il y a sa volonté Johnson. Bref, il perd contre les meilleurs, là, perd contre l'élite de l'élite dans la division. Puis oui, ce qui rend ce combat-là très intéressant, c'est que t'as Moreno qui, selon moi, le pogne son pic là, présentement et à son meilleur. Puis t'as Formiga qui commence peut-être juste un peu à ne plus être à son meilleur. Donc, ça va être un bon combat, ça va être ben le fun. Et puis, ben. J'ai le chum Formiga par décision aussi. Parce que je pense qu'il n'est pas encore assez droppé pour perdre contre Moreno. Je pense qu'il est encore le gars qui paye juste contre l'élite absolue de la division. Donc, Formiga par décision, ça nous mène à. Amanda Ribas face à Randa Marcos. Et puis, je sais que c'est comme un combat qui est fait pour qu'Amanda Ribas gagne et move in dans les rankings de la division parce que t'as littéralement deux filles qui sont numéro 16 et 17, le clair dans cette division-là, selon moi du moins. C'est Randa Marcos, c'est Angela Hill. Puis si tu veux être dans le top 15, il faut se battre ces filles-là. Puis je pense que Ribas le mérite, cette shot-là. Je sais juste pas si elle va gagner le combat parce que oui... Une bonne striker capable, tu sais, qu'on a vu contre Mackenzie Dern, de juste utiliser son striking pour gagner des combats contre quelqu'un qui est clairement inférieur à elle-là. A démontré faire la même chose avec son grappling quand elle sait qu'elle peut out-grapple quelqu'un. Ben, elle va être en mesure, tu sais, de le faire, puis de se concentrer là-dessus, puis d'accomplir ça, puis de réussir là-dedans. Randa Marcos, cependant, c'est pas quelqu'un que tu peux arriver et dire « Ah, elle, je peux faire uniquement cette chose-là et je vais la battre. » Tu sais, Randa Marcos n'est pas la meilleure combattante debout, mais elle est tellement dogged, puis elle l'essaye, puis ça s'est beaucoup amélioré pour elle aussi debout, là. Fait que c'est pas quelqu'un que tu peux arriver et dire « Ah, je vais l'out-striker facilement. » Puis de toute façon, de la manière qu'elle strike, ça lead très bien in dans son grappling, puis c'est pas quelqu'un que tu peux arriver contre, avoir un combat unidimensionnel et penser gagner. Puis je pense juste que ça va être comme un grind, ça va être un combat très serré, mais j'ai Randa Marcos par décision, là. Je pense qu'elle va est plus habituée à ce niveau de combat-là, puis elle risque juste d'être moins fatiguée à la fin du combat, à la fin des trois rounds. Je pense que c'est peut-être juste ça qui va être le facteur dans ce combat-là, que je vois être très serré, très compétitif, mais c'est sûr que la fille qui va avoir le plus de jus en fin de troisième round va être probablement celle qui va enlever ce combat-là à la toute dernière minute, puis ben, ça a tendance à être Randa Marcos ça, dans ces combats. Donc, Randa Marcos par décision, ça nous mène à Il y a des bons combats sur cette carte-là. 170 livres, Eliseu Zaleski dos Santos contre Alexei Kunchenko. Et puis c'est un très bon combat, ça. Eliseu Zaleski dos Santos, j'étais un peu sur le cul là, qu'il avait perdu contre Li Jingliang. Puis ça m'a vraiment comme mis encore plus high sur Li Jingliang. Puis là, finalement, ben, il a perdu contre Neil Magny. Puis ça a un peu squashé ses hopes de devenir un top 15 fighter un jour. Mais bref. C'est correct, ça reste un très bon fighter qui est le fun, qui build bien ses attaques là, debout. C'est quelqu'un qui va commencer en mettant quelques éléments out there, checker des réactions, puis la partie des réactions va bâtir ses attaques, puis à un moment donné, ça va amener au moment où il te lance des combinaisons, il finit par la tête, puis il passe proche de te knocker. Kunchenko est un gars très difficile à affronter. C'est quelqu'un qui a une split decision super serrée contre Gilbert Burns, qui est après aller péter Gunnar Nelson. Ça prouve le niveau du gars. Il y a genre une défaite pro, pis c'est contre Gilbert Burns. Puis, tu sais, ma critique, c'est son activité. C'est quelqu'un que tu le vois, il est rapide, il est puissant. C'est un excellent boxeur, mais ne lance pas assez. Il est vraiment quelqu'un qui va chercher le perfect shot au lieu d'essayer de lancer des combinaisons. Ça peut jouer contre lui, contre Eliseu Zaleski dos Santos, qui va absolument être ouvert à se faire counter, mais qui va nécessairement plus lancer de volume que Kunchenko. Là où je vois peut-être une différence se faire dans ce combat-là, c'est au niveau de la lutte. Zaleski dos Santos, c'est un bon grappler en général, mais Kunchenko est un très bon, c'est un russe wrestler. Boxer typique, très beau boxeur, très beau lutteur, puis je pense qu'il va être en mesure d'aller chercher ces takedowns-là pour gagner les petits extra points, puis gagner ce combat-là, chose que, tu sais, peut-être pas beaucoup d'expérience dans l'UFC encore, là, genre 4 à 5 combats peut-être, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en dehors de l'UFC contre de la très très bonne compétition, puis qu'il est capable de faire les petites choses pour gagner ces rounds-là, chose que Zaleski dos Santos est... fait peut-être un peu moins souvent, va gagner les rounds de par son volume, mais c'est pas, tu le vois pas sortir des moves là, Clyde, oh ça, il a fait ça en fonction de gagner le round. C'est plus un fighter qui va essayer d'accumuler du dommage dans le but de te finir avant la fin du combat que quelqu'un qui se bat pour gagner les rounds, pour ainsi gagner la décision. Puis je pense que dans ce cas-là, c'est ce qui va avantager Kunchenko par décision. Et ça nous mène à un autre combat intéressant chez les 135 livres. Rani Yahya affronte Enrique Barzola, puis je comprends rien, parce que vous savez, Barzola est même pas un petit 145 livres, puis là, j'apprends qu'il descend chez les 135 livres pour ce combat-là. Tu sais, c'est comme un ou l'autre, là. C'est soit que ça va super bien aller pour lui, puis il va être juste plus gros et plus physique que Rani Yahya, qui sera pas capable d'imposer son grappling game sur lui, et que Barzola va gagner, ou ça va tellement tout prendre à Barzola pour faire la weight cut, qu'il va être faible, et ainsi plus facile à exploiter au niveau du grappling par Rani Yahya, et Yahya va gagner. J'ai tendance à dire Barzola par décision, mais pour vrai, je betterais pas là-dessus. Ça va être ça mon analyse. Ça nous mène à... Mayra Bueno Silva face à Marina Moros. Step-up logique, bien que je pense que c'est peut-être un peu tôt pour Mayra Bueno Silva, mais c'est quand même un step-up logique, tu sais, dans son évolution en tant que combattante, elle qui a battu littéralement Jillian Robertson, je pense, à son dernier combat. Ça va être difficile. Je pense que Mayra Bueno Silva est un peu orientée sur le grappling. Elle se fie un peu là-dessus pour gagner ses combats. Puis souvent, c'est pas elle qui va initier les échanges de grappling. Elle est assez bonne debout, je vous dirais, mais peut-être pas autant technique que Moros, qui se déplace bien. Moros, on avait une critique d'elle avant, c'est que la fille, elle soignait beaucoup d'air. Là. Elle était juste devant toi, puis elle landait des Diego Sanchez punch. Là. Ça veut dire lancer 110 punch par round, puis elle lande peut-être 10 à 12, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça, je pense que Moros va avoir l'avantage dans ce combat-là. Basically, c'est ça que j'essaie de dire. Elle a vraiment amélioré cet aspect de ce game-là. Ça fait qu'elle lance un peu moins dans le vide, mais elle lance quand même beaucoup encore. Puis elle touche à cette heure, elle a une bien meilleure gestion du range. Ça va être important contre Mara Silva, que je pense qu'il va peut-être avoir du reach sur elle. Donc, ça va être intéressant de voir comment elle gère ça, gère la kicking game de son adversaire. Mais je pense que sa technique debout, son movement, puis la façon dont elle est capable d'être impressionnante contre des grandes lanky Muay Thai strikers comme Mara Bueno Silva, comme Sabina Mazo qu'elle a battu, je pense que... En fait, il y a beaucoup de mon analyse qui repose dans le combat contre Sabina Mazo. J'ai comme l'impression que si tu peux battre Sabina Mazo, tu peux probablement battre Mara Bueno Silva, qui est peut-être un peu plus dangereuse au sol, mais une version un peu moins bonne de Sabina Mazo debout, selon moi. Ça nous mène à un combat flyweight qui va absolument exister entre Bruno Silva... Et le chum David Dvorak, ou Vorjak, qui fait ses débuts dans l'UFC, qui je connaissais absolument pas, j'ai qu'une quelques vidéos, puis tabarnouche, Monsieur Sparky. Je pense que le livreur est arrivé avec la bouffe, là. Puis là, Monsieur Sparky capote. Fait que vous l'entendez sûrement. Mais au moins, il est pas dans la pièce, fait qu'il vous donnera pas le coronavirus. Ceci étant dit, Vorjak est très grand pour un flyweight, bon striker. Je serais peut-être inquiet s'il affrontait un bon grappler qui serait capable d'exploiter cette lacune-là. Mais ce que j'ai vu de Bruno Silva, c'est plus un gars qui va aller dans le clinch, puis que là, va se retrouver pris dans le clinch, puis qui saura pas vraiment comment aller chercher ses takedowns parce que c'est pas un si bon lutteur que ça. Puis il y a un bon top game, une fois être installé sur le top, il faut juste s'installer là. Puis je pense qu'il va se retrouver contre un gars qui est plus lanky que lui, puis qui va sûrement comme l'attendre au bout de ses punches pendant que Silva va chercher une manière désespérée d'amener ce combat-là au sol. J'ai donc Vorjak par décision, et ça nous mène au dernier combat. Veronica Macedo contre Bea Maliki. Puis Veronica Macedo, je le sais qu'on sait, j'arrive ça, puis je suis tout en train de pique contre elle, même si je trouve pas ça une mauvaise combattante. Elle est quand même impressionnante. L'affaire, c'est que ce combat-là a lieu à 135 livres. Puis y a-t-il une division dans laquelle Macedo ne s'est pas battue? Je pense qu'elle s'est battue partout, là, de 115 à 135. Elle s'est assurément battue à 125, quelques combats. Et puis, garde, j'aurais confiance en elle. C'est une bonne grappler. Elle est surprenante de son dos, sort des belles soumissions, capable de trick des filles. Le problème, c'est que Bea Maliki était littéralement une featherweight avant d'arriver dans l'UFC. Fait que t'as comme une fille qui se bat des fois à flyweight, même si c'est un peu petite pour cette division-là, qui saute à 135 livres, puis qui va affronter une grosse de 145 livres, qui coupe vraiment beaucoup de poids pour faire 135 livres, et qui va vouloir grapple elle aussi. Donc j'ai l'impression que quand t'as deux grapplers de skill égal, souvent c'est le ou la plus grosse des deux qui gagne, et la plus grosse des deux va sans aucun doute être Bea Maliki dans ce combat-là. Donc je l'ai par décision, ça conclut mes analyses. Laissez-moi un like, un commentaire, toute la patente, faites attention à vous, ne pognez pas le coronavirus, et on se parle une prochaine fois.